Quelle direction donner à notre Église cette année qui commence? Nous sommes le 1er septembre. Est-ce que nous aurions un texte qui puisse nous mettre sur de bonnes rails pour cette année? Un texte qui puisse nous encourager à vivre ce que Dieu souhaite que l'Église vive? Et bien sûr, il s'agit de la Bible, il y en a plusieurs, il fallait choisir. Et je vous propose le texte d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 16. Éphésiens 4, 11, 16. Et si vous permettez, je le lirai dans la version second 21. Vous pouvez suivre à l'affichage. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et je lis. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. D'autres versions ont pasteur, docteur. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Jusque-là. Ce texte de l'apôtre Paul répond à trois questions importantes, je pense, nous concernant. La première d'entre elles, c'est qui est responsable de la croissance de l'Église? Point d'interrogation. La deuxième, quel est le but de la croissance de l'Église? Et la troisième, comment l'Église grandit-elle? Ce que nous allons voir dans la prédication. Qui est responsable de la croissance de l'Église? Le texte nous dit que c'est lui qui a donné à l'Église les uns comme ceci, cela. Et le « lui » ici, c'est Jésus-Christ, bien sûr. C'est Christ qui pourvoit aux besoins de l'Église pour sa croissance. C'est de lui dont dépend la croissance. Si Christ ne fait pas grandir, si Christ ne donne pas certaines choses à l'Église, l'Église ne grandit pas. Elle est complètement dépendante de son œuvre, en tout cas de l'œuvre de Saint-Esprit. L'Église est le projet de Christ. C'est lui qui l'a bâti et il le fait comme il le veut, comme il le souhaite. Et que voyons-nous qu'il donne? Ben, le texte nous dit qu'il donne des personnes. Apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants ou pasteurs, docteurs, si vous voulez, ce sont des personnes que Christ donne à l'Église pour sa croissance. Alors effectivement, il y a ici une question d'interprétation, vous savez sans doute. Question, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des apôtres ou des prophètes? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Ce sont les deux dons qui posent problème en général dans le texte biblique. Je pense qu'il faut se référer au contexte de la pensée de Paul pour donner une réponse à cette question. Ce duo apôtre-prophète revient trois fois depuis le début de la lettre. Chapitre 2, verset 20, Paul dit aux Éphésiens, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Christ est la première pierre, les apôtres, les prophètes, pose les fondements. L'Église est ensuite bâtie dessus. Donc les apôtres et les prophètes sont ceux qui ont posé les fondements. Au chapitre 3, versets 3 à 5, il est dit « C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. » En les disant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc Paul parle ici, dans le texte, des apôtres et prophètes historiques, ceux du Nouveau Testament, qui ont posé les fondements de l'Église, qui ont révélé le message qui a été voilé jusqu'alors, le message de l'Évangile, qui ont expliqué le sens de la croix, qui ont posé les fondements, fondations que l'on retrouve dans le livre des Actes, par exemple, des apôtres, avec l'événement de la Pentecôte où la puissance de l'Esprit s'est révélée ou s'est réalisée lors des réunions des Juifs et des non-Juifs. Dans ce sens, et je dis bien dans ce sens, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, nous bâtissons seulement sur leur fondement en ce qui concerne la pensée de Paul. Néanmoins, est-ce qu'on peut penser à ces dons-là qui sont donnés à l'Église dans un sens plus faible? Pas au sens historique, pas au sens fort du terme apôtre ou prophète. Pas au sens où on revêt une autorité qu'avaient reçue ces personnes-là, qui avaient un mandat particulier de la part du Christ, mais d'une autre manière. Eh bien, je crois que d'une certaine manière, quand on réfléchit à des missionnaires, quand on réfléchit à des implanteurs d'églises qui partent dans des contrées éloignées, fonder des églises là où il n'y en a pas, avoir une activité qui rassemble des hommes et des femmes, en somme, qui ressemble à ce que faisaient les apôtres et les prophètes à l'époque. On peut dire qu'ils sont un petit peu apôtres, un petit peu prophètes, au sens faible du terme. Mais ce sont des missionnaires, ce sont des implanteurs, ils n'ont pas l'autorité des apôtres. Ils n'apportent pas un nouvel évangile. Mais ce sont des personnes qui ont une activité qui ressemble à celle des apôtres et des prophètes. Et heureusement que Christ continue de donner des personnes pour aller ouvrir d'autres champs missionnaires dans le monde, puisque c'est à cela qu'il nous appelle, nous l'Église. Il nous appelle à bâtir son Église. Et c'est la même chose, je crois, pour le prophète. Selon la foi que nous professons, nous croyons qu'il n'y a plus de prophète comme il y a eu au temps du Nouveau Testament. Des prophètes qui parlent en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Puis deux points, ouvrez les guillemets, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Mais on peut reconnaître qu'il y a des personnes dans l'Église qui, non pas par révélation, mais par l'enseignement des Écritures, peuvent amener l'Église à discerner un besoin particulier du monde qui nous entoure ou des choses que l'Église a oublié en chemin, et il nous le rappelle. C'est un théologien qui s'appelle John Stott qui disait que la prédication prophétique pourra s'identifier à une sensibilité particulière aux défis et besoins de notre monde contemporain. Et comment le message de l'Évangile y répond avec la sagesse de Dieu. Vous le savez, nous vivons à une époque trouble et nous pouvons penser par exemple aux troubles d'aujourd'hui liés à l'identité, à la question de la révolution sexuelle, à la question des mouvements migratoires, à la question de l'écologie. Quand l'Église y fait face avec une réponse qui est biblique, fondée sur l'Écriture et qui montre une vision biblique, eh bien, nous pouvons dire que cette parole-là revêt une dimension prophétique. Et Paul continue et dit que le Christ a donné des évangélistes. Trois fois le mot revient dans le Nouveau Testament. Ce sont des personnes données à l'Église avec un fardeau particulier pour le message de l'Évangile et pour le faire connaître au-delà de l'Église, aidant ainsi l'Église à répondre au mandat missionnaire auprès de ceux qui se posent des questions sur leur foi, aidant ainsi l'Église à rendre témoignage dans son territoire d'implantation. Et ensuite, Paul parle des bergers, des enseignants, traduits parfois par pasteurs, docteurs. Là encore, certains théologiens pensent qu'il y a d'un côté les bergers, de l'autre côté les enseignants. D'autres pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne qui porte les deux fonctions, selon ce qui est écrit dans le grec. Ce n'est pas une question que nous allons trancher ici, mais le mot berger est traduit ici par pasteur, qui est interchangeable dans le Nouveau Testament avec le mot ancien. Le mot ancien se réfère plutôt à la responsabilité, tandis que le mot pasteur plutôt à ce qu'il fait, c'est-à-dire prendre soin, enseigner. Et d'une certaine manière, tous les anciens, tous les pasteurs sont appelés à enseigner. Mais il semble que Paul fait une distinction entre les anciens et le don d'enseignement. En particulier, si tous les anciens sont appelés à faire ce travail d'enseignement. Et Dieu donne à certains une capacité particulière à enseigner. Vous savez, pas tout le monde sait enseigner la parole de Dieu. On le voit dans la lettre de Paul aux Romains, dans laquelle il dit que ceux qui ont ce don doivent le faire, doivent s'y consacrer activement. Tous ces dons ont un lien avec l'enseignement de l'Écriture. Apôtres, prophètes, pasteurs. C'est pourquoi on les appelle en général les ministères de la parole, s'agissant de la parole de Dieu, bien sûr. Et il faut quand même reconnaître que ces ministères ne sont pas étanches. Vous avez des liens entre eux, des similarités entre eux. Et appliqué à l'Église locale, il faut penser que l'Église doit avoir une pluralité de responsables pastoraux, une pluralité d'anciens qui ont un tronc commun pastoral, parce que tous ces ministères ont vocation à prodiguer des soins, à veiller sur et aider à conduire l'Église, des ministères qui sont complémentaires, indépendantes, et qui tous ensemble aident à construire l'Église grâce à la parole de Dieu. Alors, quel est le point commun? Quelle est la mission commune de ces personnes, de ces ministères cités par Paul? Paul dit au verset 12, le Christ a donné ces personnes à l'Église dans la perspective de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Question. Qui fait le service dans l'Église? Qui sert l'Église? Qui est responsable du service et de la croissance de l'Église? Est-ce les responsables pastoraux? Non. Pas du tout même. Regardez ce qu'il dit au sujet des responsables pastoraux, verset 12. Christ les a donnés à l'Église pour qu'à leur tour, ils puissent former les saints aux tâches du service. C'est ça leur rôle aux responsables pastoraux. Former les saints au service. Bien sûr, les saints ici sont les chrétiens. Ce sont donc les chrétiens qui sont responsables du service dans l'Église. Ce sont eux qui servent. C'est la communauté des croyants qui sert et qui bâtit l'Église. Cela veut dire que les anciens, les responsables, ne doivent pas assumer seuls les ministères ou tous les ministères dans l'Église. Les responsables pastoraux ne peuvent pas être à tous les postes. Cela veut dire que les chrétiens, ceux qui sont agrégés à l'Église, sont responsables de faire grandir l'Église. Un peu plus loin, au verset 16, Paul parle des articulations du corps. Nous avons lu ça tout à l'heure. Et les spécialistes pensent que dans cette image du corps que représente l'Église, les articulations dont il est question, eh bien, ce sont les responsables qui regroupent les mystères de la parole, ceux qui aident à mettre de l'huile dans les rouages, qui aident à faire fonctionner la machine. Les responsables n'ont pas la simple responsabilité de prendre soin de l'Église, mais ils sont aussi chargés de veiller à ce que l'Église veille sur l'Église, à ce que les membres prennent soin les uns des autres. Comment le font-ils ? Eh bien, en enseignant l'Église, en enseignant la parole de Dieu, par le ministère de la parole, et montrant l'exemple par leur vie également et par leur service. Qui est donc responsable de la croissance de l'Église ? Qui bâtit l'Église ? Qui sont les ouvriers qui servent et qui font grandir l'Église ? Ce sont les membres de l'Église, ce sont les chrétiens. Et tout le monde a son rôle à jouer. Le Saint-Esprit donne des dons, équipe chacun des enfants de Dieu pour qu'ensemble, nous servions les uns et les autres. Et ainsi grandir, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ en tant que communauté. Pourquoi ce sont ces dons qui sont formateurs ? Pourquoi ce sont ces personnes-là, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs que le Seigneur a donnés pour former les chrétiens au service de l'Église ? Eh bien parce que les apôtres, les prophètes, sont ceux qui ont posé les fondements de ce qu'est l'Église. Autrement dit, nous ne pouvons pas bâtir l'Église comme nous le voulons. C'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture qui est la source d'autorité en matière de foi, en matière de ce que nous devons croire et comment nous devons vivre la vie d'Église. Ce n'est pas à nous de vivre l'Église selon notre bon vouloir, comme nous le voudrions. Non. Nous avons les fondements. Et nous sommes responsables, nous sommes chargés de construire sur ces fondements-là, selon les directives que le Seigneur nous donne à travers les Écritures. Les différents services, le culte, les différents projets ou la manière de nous comporter entre nous, ce n'est pas à nous de décider comment nous devrions vivre l'Église. Mais c'est la parole de Dieu qui donne et qui dit comment faire. Et les ministères de la parole sont des personnes qui sont là pour expliquer, pour aider l'Église à appliquer, à former les chrétiens à vivre la parole et à l'utiliser dans l'Église. Et ce que souligne Paul ici, c'est que le ministère des responsables, c'est de former les autres pour leur ministère à eux. Le fruit du ministère des responsables pastoraux est le ministère des autres. Pas seulement ce qu'ils font, mais comment ils vont aider l'Église à être équipée pour appliquer et vivre la parole au sein de la communauté. C'est donc une question avant tout pour nous les anciens. Est-ce que nos ministères permettent de rendre l'Église capable ? Est-ce qu'ils forment ? Est-ce qu'ils aident les gens à s'engager dans le service ? Ou est-ce qu'on les rend encore plus dépendants que nous-mêmes ? C'est aussi une bonne question à se poser pour toutes celles et ceux parmi nous qui sont engagés dans différentes responsabilités. Comment pouvons-nous aussi bien guider et organiser, mais aussi équiper, former, permettre aux autres de grandir et de s'engager au service du Seigneur. Comment lever une nouvelle génération de servantes et de serviteurs ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que nous devons progresser. Nous devons aller de l'avant, nous devons faire des progrès. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière ce qui marche bien dans l'Église, ni défendre un bilan comme certains communicants politiques. Mais si nous voulons progresser, nous ne pourrons pas le faire sans nous tous, sans chacun de nous. Nous avons besoin de nous tous ensemble, de nous saisir de notre responsabilité à chacun, de servir les uns auprès des autres. Et donc, on arrive à la deuxième grande question à laquelle, je crois, Paul répond. Quel est le but de la croissance de l'Église? Verset 12. L'édification du corps du Christ. Et je coupe un petit peu le verset 12. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ensuite, il dit la même chose par la négative au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Quel est le but de la croissance de l'Église? Paul parle ici de maturité et d'unité. D'unité parce que l'unité est indispensable à ce que les membres soient engagés les uns envers les autres. L'unité n'est pas simplement le fait que nous ayons plaisir à nous voir. Oui, je suis content de vous voir le dimanche matin. L'unité n'est pas simplement le fait qu'il n'y ait pas de conflit dans une assemblée. Et ça fait du bien quand il n'y a pas de conflit dans une assemblée. Mais c'est plus que ça, l'unité. L'unité, c'est l'engagement communautaire des uns envers les autres pour vivre et chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est cela, l'unité dans la foi. L'unité de la connaissance de Jésus-Christ. L'autre but que Paul souligne dans notre texte, c'est celui de la maturité. Pour le dire, Paul utilise ici deux images, celle de la construction du temple. L'Église est cette image du temple où Dieu réside par le Saint-Esprit. L'Église est temple et l'Église est aussi corps du Christ, dont Christ est la tête. Et ces deux images nous rappelle que nous sommes unis à Christ et que l'Esprit est celui qui opère cette union, celui qui nous connecte à Jésus-Christ. Paul dit que ce temple doit se bâtir et que ce corps ne doit pas rester celui d'un tout petit enfant. Mais ce corps, ce temple, doit grandir jusqu'à devenir mature, avoir une stature parfaite. Le Christ est la maturité par excellence. En matière de foi, en matière de vie affective, en termes de relations, d'engagement dans la mission, Christ est le modèle que nous devons chercher à imiter. L'Église qui mûrit, c'est l'Église qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et pour connaître cette maturité, l'Église doit être unie elle-même. Les membres doivent s'engager les uns envers les autres et se servir les uns les autres pour que cette Église ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas un but individuel. Souvent, on parle de la sanctification, le fait de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ d'une manière individuelle. Moi, je dois travailler à ma sanctification. Il est vrai qu'il est de notre responsabilité, de notre devoir d'y veiller. Mais il y a une responsabilité communautaire. Et je crois que les Écritures affirment qu'on ne peut pas parvenir à la maturité spirituelle sans une vraie vie communautaire, sans une vraie vie d'Église. On ne peut pas grandir seul avec Dieu. Pas possible. Et ceux qui le croient se trompent lourdement. On ne peut pas grandir seul avec Dieu. On est intégré dans un peuple et on a besoin des autres pour nous aider à grandir. C'est comme ça que Dieu a façonné son Église. J'ai besoin de Marlène, moi, pour grandir dans ma foi. Et Marlène a besoin de vous pour grandir dans sa foi. À moins qu'on veuille rester des bébés spirituels. Ça, c'est chacun qui voit. En tout cas, la pédagogie que le Seigneur utilise, c'est de nous rassembler, de nous réunir en un seul corps, formant son Église, celle qu'il s'est donnée, pour laquelle il s'est donné, pardon. Et il y a là une implication importante pour nous. Une de nos faiblesses, c'est de résumer l'Église au culte dominical, le culte du dimanche matin. Finalement, nous ne vivons l'Église que lorsque l'Église se réunit le dimanche matin. Du coup, je m'interroge sur ma place et ce que je dois faire, mon rôle dans l'Église. Est-ce que c'est simplement saluer les frères et sœurs à la fin du culte? Et si je suis un musicien, et si je suis un prédicateur, et si je suis dans l'enseignement des enfants, finalement, je sers à quelque chose. Si je ne le fais pas, je ne sers à rien au sein de l'Église. Est-ce que c'est comme ça que je vois l'Église? Et puis je me dis, de toute façon, l'Église a déjà des musiciens, l'Église a déjà des prédicateurs, l'Église a déjà des enseignants. L'Église n'a pas besoin de moi. Si je suis absent, ça ne fera pas une grande différence. Et malheureusement, dans ce que j'entends dans nos différents échanges, c'est que beaucoup pensent que les dons sont donnés pour le culte. Eh bien, sachez que les dons que l'Esprit donne ne sont pas donnés pour le culte. Les dons sont donnés pour l'Église. L'Église, ce n'est pas une somme d'activités. L'Église, c'est une famille spirituelle. Certes, il y a des activités, mais elles ne sont pas le tout de l'Église. Les activités sont le squelette, mais la chair, les muscles qui s'y déposent, ce sont les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est la façon dont nous nous servons les uns les autres. C'est ça qui forme l'Église. Les dons ne sont pas donnés pour le culte, ils sont donnés pour l'Église. Nous sommes donc tous appelés à nous investir, à être disponibles. Paul sous-entend qu'il y a de vraies relations dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Troisièmement, comment l'Église grandit-elle en unité et en maturité? On a vu au début que Christ a donné des personnes qui enseignent la parole de Dieu et qui aident l'Église à la mettre en pratique. Comment grandit-elle alors? Mais cela parle des personnes précédemment citées, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et enseignants. Mais ensuite, on voit ce qui se passe dans l'Église. Verset 15. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est le ministère de la parole de Dieu qui nous conduit, bien évidemment. Mais comment grandissons-nous? Eh bien, en se parlant les uns les autres. C'est ce que Paul dit. En se disant la vérité dans l'amour. Et ce que Paul sous-entend ici, lorsqu'il parle de la vérité, c'est la vérité de l'Évangile. La vérité de Paul qui est partagée avec affection, avec amour, avec compassion les uns pour les autres. L'Église grandit en maturité à mesure qu'elle est remplie de relations affectueuses centrées sur l'Évangile, centrées sur Jésus-Christ. L'Évangile circule au sein de l'Église et l'Église rend tangible l'Évangile. On se rappelle les uns nous autres, comment vivre à sa suite. On se réconforte par le message de la grâce, on s'encourage à la sainteté, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble, on prend soin les uns des autres, comme Christ a pris soin de nous. Et on apprend à lui ressembler de jour en jour au sein de l'Église. Et transmettre la vérité avec amour, c'est bien plus que simplement avoir un discours, dire de belles choses. Nous avons un peu en Occident une vision de la transmission et de la façon dont l'Église doit grandir un peu scolaire. Une manière très occidentale de voir les choses. Mais le modèle biblique de la transmission et de l'édification de l'Église n'est pas simplement celui d'une personne qui dit à une autre « Voilà ce que tu dois faire, voilà comment il faut marcher, voilà comment il faut respirer. » Ce n'est pas uniquement ça dont il est question. Ce n'est pas simplement transmettre une information. C'est davantage la transmission d'une façon de vivre. Paul le dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Serions-nous capables de dire comme Paul, « Imite-moi. » Et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Nous suivons un modèle. Et toujours en Philippiens, au chapitre 4, verset 9, Paul dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Il dit à Tite, chapitre 2, verset 6 à 7, « Encourage de même les jeunes gens à se... » Ah, pardon, je reprends. « Encourage... » De même, les jeunes gens à se mettre à réfléchir en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. On ne parle pas simplement de se transmettre la vérité, d'un discours, mais d'une façon de vivre les uns avec les autres. Et la première question à se poser, ce n'est pas... Dans quoi je pourrais m'investir? Où est-ce qu'il y a de la place pour moi aujourd'hui dans l'Église? Mais plutôt, qui puis-je aimer? Qui puis-je servir à l'image de Jésus-Christ? Qui puis-je encourager dans l'Église? Comment prendre soin des uns et des autres? Quand on prie pendant le culte, quand on chante ensemble, nous nous disons la vérité les uns aux autres. Avec amour, nous nous enseignons mutuellement, nous nous édifions mutuellement. Quand nous avons des relations authentiques avec des membres de l'Église et que nous nous aidons mutuellement dans la connaissance du Fils de Dieu, nous dit Paul, eh bien nous nous aidons les uns les autres à ressembler à Jésus-Christ. Quand nous nous aidons à lutter contre nos tentations, quand nous prions les uns pour les autres, quand nous allons voir de nouvelles personnes ou des personnes que nous connaissons moins bien, après le culte, ou que sais-je encore, quand nous voyons des personnes un peu isolées et qui n'ont pas suffisamment de courage pour aller vers les autres. Eh bien, nous participons à tout ça, à la construction de l'Église. Ce n'est pas uniquement de la responsabilité des anciens. Non, c'est de la responsabilité de tous les chrétiens, de tous les croyants, ceux qui font partie de l'Église. Quand nous savons qu'une personne est éprouvée dans sa foi, dans sa santé, et que nous nous rendons disponibles pour prier avec elle, quand nous partageons ses fardeaux, nous participons à la construction de cette Église. Nous vivons ensemble et nous grandissons ensemble à la mesure parfaite de Jésus-Christ. Alors oui, c'est un défi pour chacun de nous. Et pour moi, le premier d'ailleurs. Conscient des progrès que je dois moi-même faire dans certains domaines pour ressembler de plus en plus au Seigneur. Mais ce texte a de quoi me réconforter. Parce que Paul le finit en disant, au verset 16, « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Quel réconfort! Tout part de Christ, parce que c'est lui qui a donné. Et pour quel but? Ressembler à Christ. Et finalement, comment le faisons-nous? Bien par Jésus-Christ. De lui, par lui, pour lui et par lui. Christ est la source et la finalité de ce qu'est l'Église. Il n'y a pas, ou alors s'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas d'Église. C'est lui qui agit en nous pour que nous ayons des relations à son image, empreintes d'amour, de maturité. Il est la main, nous sommes tout simplement des instruments. Et moi j'aime bien cette image du potier et de l'argile. Il est le potier, nous sommes l'argile, et c'est lui qui nous façonne. C'est pas l'argile qui dit au potier, j'aimerais bien être un pot de fleurs ou une assiette. Non, c'est le potier qui donne la forme qu'il veut pour ses besoins à lui, pour le bien de l'Église. Si nous cherchons à grandir et que nous nous efforçons à vivre l'Évangile, c'est dans le but de remplir le mandat qu'il nous donne. C'est même la condition sine qua non de reconnaître humblement nos faiblesses, parce qu'il faut reconnaître nos faiblesses, notre incapacité à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, notre indignité à vivre l'Église telle que lui veut que nous la vivions. Et pour se rendre réceptif à sa grâce et à le laisser agir en nous, transformer nos cœurs pour que nous puissions lui ressembler et servir les frères comme lui, il veut. Nous devons nous humilier, nous soumettre à lui. Ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année, pour notre Église, c'est que nous nous engagions ensemble par la grâce du Seigneur, fondés en lui, en regardant à lui, et qu'il soit le but de tout pour l'Église. Que nous vivions des relations centrées sur l'Évangile afin que notre communauté grandisse et s'épanouisse dans la vérité de l'Évangile et dans l'amour. Sinon, notre Église, elle est vouée à l'échec. Malgré les fondements, malgré le fondement des apôtres et des prophètes, si nous ne construisons pas, si nous ne bâtissons pas l'Église, l'Église disparaît. Alors, mes chers frères et sœurs, construisons. Oui, construisons de tout notre cœur, construisons avec toute notre volonté, construisons pour le bien de nous-mêmes. Et construisons pour la gloire de Dieu. Amen.